Sur Radio Galaxy, la première conférence de l'année 2024 pour la pub en vol est organisée le 24 janvier à Rueil-Volvestre sur le réchauffement climatique. Bonjour Julien Klotz.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur aéronautique, militant associatif, politique et syndical. Et par ailleurs, vous êtes très impliqué dans cette lutte contre le réchauffement climatique. C'est un des sujets phares qui revient souvent et c'est une réelle préoccupation pour nous tous, ou qui devrait l'être en tout cas, Julien.
Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui a déjà commencé à bouleverser nos vies de plusieurs manières. Oui. Donc c'est important de bien comprendre ce qui se passe pour pouvoir réagir et garder nos modes de vie le plus longtemps possible.
Comprendre pour bien agir, qu'est-ce qu'il est important de comprendre dans ce réchauffement climatique ?
Alors, je vais vous faire un petit résumé du contenu de la conférence. J'espère que ça vous donnera envie d'en savoir plus de manière détaillée. Il y a un mécanisme qui, pour moi, est important à bien comprendre, c'est que toutes les émissions de CO2 qu'on fait par nos activités humaines, elles vont dans l'atmosphère, elles remplissent l'atmosphère un peu comme une baignoire qui se remplit et qui se vide très lentement. Et tout ce CO2, ça forme une grande couverture qui empêche les rayons de soleil de repartir. C'est ça qui provoque le réchauffement climatique, en quelques mots. Et donc cette baignoire qui se remplit, elle va bientôt déborder. Quand on dit elle va bientôt déborder, c'est que aujourd'hui la planète s'est déjà réchauffée de 1,1 degré depuis l'ère pré-industrielle, depuis 1850, avant qu'on ait des moteurs à explosion, etc. Si on arrive à 1,5 degré ou 2 degrés ou au-delà, ben, ça aura des conséquences irréversibles ou très très graves par rapport à nos conditions de vie dans notre pays. On le voit plus facilement peut-être dans d'autres pays, mais qui commence déjà à atteindre aussi notre pays, la France et notre région. L'image que j'utilise aussi, c'est quand on a de la fièvre, la température habituelle c'est 37,5. Si on a 39, c'est juste, hein, c'est pas grand-chose, 1,5 degré de plus, mais néanmoins on est en très mauvaise posture. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il nous reste peu de marge pour arrêter ce réchauffement qui provoque déjà des sécheresses, des canicules, des incendies, des tempêtes. Et donc voilà, c'est pour expliquer ce mécanisme-là. Ça, c'est la première partie de la conférence que je propose. Et la deuxième partie, c'est du coup, qu'est-ce qu'on fait pour ralentir ce remplissage de cette baignoire de CO2?
Alors 1,1 degré, ça paraît très peu dit comme ça, mais en fait, c'est déjà beaucoup trop.
Oui, c'est ça. Alors là, on est plutôt sur une pente. Si on continue à émettre comme on le fait aujourd'hui, on va plutôt arriver à 4 degrés. Ouais. Et donc 4 degrés, alors un élément de comparaison qui peut aider à comprendre, il faut savoir que la précédente ère glaciaire qu'il y a eu en Europe, c'était il y a 22 000 ans, la température moyenne était de 5 degrés inférieure à ce qu'il y a aujourd'hui. Et avec juste 5 degrés de moins, il y avait 120 mètres d'épaisseur de glace sur tout le nord de l'Europe. La mer, les océans avaient un niveau qui était inférieur de moins 120 mètres. Et donc 5 degrés, voilà, ça transforme très 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 radicalement nos paysages et en conséquence nos modes de vie. Donc c'est signifier l'importance des dixièmes de degrés, etc.
D'où elles viennent ces émissions de gaz à effet de serre et comment elles provoquent ce réchauffement climatique ?
Alors, il y a un point que je vais mettre de côté assez rapidement, c'est le changement d'affectation des terres. C'est-à-dire que quand on déforeste une zone géographique pour construire des maisons ou autre chose, eh ben ça émet aussi du CO2. Mais le principal, bien sûr, c'est la consommation des énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz. Et puis aussi les émissions de méthane, par exemple, que provoquent les ruminants dans leur digestion. Mais donc, en gros, hein, les cinq principaux postes, alors il y a différentes manières de présenter la chose, mais moi, la manière de présenter les choses, c'est par grand poste d'activité, il y a l'alimentation, le transport, le logement, tout ce qui est consommation autre, c'est-à-dire l'habillement, l'informatique, etc., les meubles. Et puis, un cinquième poste qui sont les services publics. Cette présentation, c'est une présentation avec une vision d'individu qui a ça à sa main. Sauf sur les services publics, hein, on ne peut pas agir directement sur les émissions de CO2 du service public, mais ça permet à chacun de voir de sa position quelles sont les émissions qu'il émet dans ses activités, dans son déplacement, dans ce qu'il mange, dans le fait de chauffer son logement, etc.
Et en tant qu'ingénieur aéronautique, quels sont les constats que vous en avez fait, Julien ?
Alors là, je vais parler en tant qu'ingénieur aéronautique. Aujourd'hui, moi, je vais par exemple parler des modes de déplacement et de l'avion. Aujourd'hui, les prévisions des avionneurs, c'est de doubler la flotte d'avions d'ici 20 ans. Donc ça fait une courbe de croissance exponentielle. Et par ailleurs, il faut diviser nos émissions de CO2. D'ici 2030, il faut les diviser presque par deux. Bon, bien sûr, on travaille à faire des avions qui émettent moins de CO2, à des ruptures technologiques comme l'usage de l'hydrogène pour les avions. Mais ça, ça va arriver en 2040, 2050 peut-être. Que ça soit pour l'avion ou pour beaucoup d'autres domaines, aussi les voitures, aujourd'hui on parle des voitures électriques, mais tout le monde n'a pas de voiture électrique et ne pourra pas forcément s'en acheter. Il faut agir, nous, en tant qu'individus, tout de suite, rapidement, et c'est ça que je présente dans ma conférence. Alors, l'objectif aussi, c'est pas de culpabiliser les gens, chacun a une situation, sa situation actuelle, des gens qui sont obligés de se déplacer pour aller travailler. Il y a d'autres personnes qui peuvent utiliser peut-être un vélo parce qu'ils habitent en ville et ils habitent pas trop loin de leur travail. Donc c'est à chacun. Moi, ce que je veux donner, c'est des clés, des outils de compréhension à chacun pour que chacun puisse s'impliquer directement ou indirectement dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Oui, parce que justement, on est 8 milliards sur Terre. Est-ce que c'est encore possible de limiter les dégâts? Est-ce qu'on est sur la bonne trajectoire ou c'est mal parti?
En fait, ce qui est intéressant aussi, quand on s'engage dans la lutte contre le réchauffement climatique, c'est d'identifier tous les freins qui s'opposent à ces changements d'habitude ou changements de choses qu'on va être obligé de faire pour le réchauffement climatique. Il y a des gens qui disent, c'est trop tard, de toute façon, quoi qu'on fasse, ça va se réchauffer. Non. Oui, c'est vrai que si ça continue, ça va se réchauffer, mais on peut limiter ce réchauffement. Et tout dixième de degré qu'on prendra, ça sera bon à prendre pour nous et surtout pour nos enfants. Donc oui, si on peut agir, et d'ailleurs, et ça commence à porter ses fruits, les émissions de CO2 en France, par exemple, ont baissé l'année dernière, pas forcément autant qu'on aimerait, néanmoins, elles ont commencé à baisser. Donc ça peut porter ses fruits, voilà, donc c'est un mouvement qu'il faut poursuivre. Je pense que maintenant, il y a une prise de conscience qui est de plus en plus large. Ça a mis du temps, mais ça arrive. Donc voilà, c'est pour donner des leviers pour aller encore plus vite dans cette lutte. Donc si on peut agir, il faut le faire, rien n'est perdu.
Et alors pour agir, quelles sont les petites actions qu'on peut tous faire à la maison?
Alors moi, un des points par contre où on entendait beaucoup de publicité sur les gestes comme éteindre sa lumière en partant de chez soi ou éteindre sa box internet ou des choses comme ça, alors ouais. Ça c'est des petits gestes et c'est pas suffisant. Ce qui est intéressant dans la conférence justement, c'est de donner des ordres de grandeur en disant ça, ces petits gestes, ça représente tel gain de telle réduction d'émissions de CO2, c'est pas grand chose par exemple par rapport à d'autres choses. Alors, je vais juste citer un ou deux exemples si vous voulez. Par exemple, avoir une grosse voiture, faire 10 000 km par an en voiture avec une grosse voiture, c'est aux alentours de 3 tonnes d'émissions de CO2 par an. Donc, par exemple, si au lieu d'être tout seul dans sa voiture pour 10 000 km, on fait du covoiturage, on divise ces 3 tonnes par 2. Donc on passe immédiatement à 1,5 tonnes. Bien sûr, si on passe au vélo, on passe tout de suite à zéro émission de CO2. Même un vélo assistance électrique, aujourd'hui, ça émet pas de CO2 ou de manière complètement marginale. Parce qu'en France, on a de l'électricité qui est très largement décarbonée, elle est nucléaire ou renouvelable, essentiellement. Donc ça, c'est des gestes qu'on peut faire pour les déplacements, par exemple. Il y a aussi dans l'alimentation le fait de ne plus manger de viande, donc devenir végétarien, ça fait passer de 2,5 tonnes de CO2 par an à 1 tonne de CO2 par an. Alors, c'est des changements d'habitude, mais il y a des étapes. Enfin, on peut aussi ne pas s'arrêter brutalement, on peut aussi en manger une fois par semaine et autres. Donc voilà, le fait de manger de la viande, c'est quelque chose de dimensionnant dans l'alimentation. Après, manger bio ou pas, c'est pas ça qui va faire la différence en termes de gain d'émissions de CO2, même si c'est bien pour l'environnement. Sur le logement, le fait de faire isoler son logement, ça permet de diminuer. Alors aujourd'hui, une maison mal isolée, elle émet par personne 2 tonnes de CO2 par an. Donc ça, c'est de la classe E. Si on passe dans un logement de classe C, je parle des diagnostics de performance énergétique, dont la valeur peut être sujette à caution, mais néanmoins, pour les ordres de grandeur, ça fait passer de 2 tonnes à 0,8 tonnes.
Ouais, c'est
pareil. Voilà. Donc c'est tous ces éléments-là que je souhaite partager avec les personnes qui seront présentes pour dire à chacun, voilà, évoquer ça et que chacun puisse se dire, moi dans ma situation, je peux faire ça et je peux agir concrètement. Et ne pas se tromper sur les gestes à faire. Voilà.
Alors ça passe par nous les particuliers, mais pas que, il faut que ce soit aussi les entreprises et les collectivités.
Exactement, il y a 3 leviers. Bien sûr, la conférence, elle s'adresse orientée en direction des particuliers, mais tout n'est pas à notre main directement. C'est pour ça qu'il y a les 2 autres leviers, ça peut être Ensuite, une fois qu'on a tous ces éléments, c'est en tant que salarié d'une entreprise, comme je le fais moi dans la mienne, de faire en sorte que ce qu'on produit, ça émette moins de CO2 au moment de la production ou de son utilisation.
De limiter, oui.
Ça, c'est en tant que salarié d'une entreprise, par exemple, ou si on est à son compte, bah, dans son activité, se questionner sur la manière de faire. Et puis, après, en tant qu'individu, et le troisième levier, c'est les collectivités, l'État, etc. Et là, c'est plutôt en tant que citoyenne et citoyen qu'il faut intervenir et prendre position, faire pression sur nos élus pour qu'ils prennent des mesures qui réduisent les émissions de CO2.
Il faut que ce soit vraiment collectif, parce que s'il y en a un qui fait un geste et que derrière, il y en a 5000 qui font le contraire, on va pas avancer bien vite, malheureusement.
Tout à fait. Et ma conviction, c'est que la transition écologique, il faut la faire tous ensemble ou on n'arrivera pas à la faire. Donc il faut échanger avec les uns avec les autres justement pour communiquer sur ces pratiques-là. Parfois, quand je fais des animations, les personnes qui viennent sont déjà convaincues de ce qu'il faut faire. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est d'échanger avec des personnes qui connaissent moins. Ben, voilà, et je suis pas là pour leur dire... après, chacun repart et fait ce qu'il veut. Mais moi, je serais heureux de partager avec des personnes qui connaissent moins le sujet pour leur donner des clés, que chacun devienne acteur et actrice de la lutte contre le réchauffement climatique.
C'est important de s'informer. Parmi les conséquences climatiques, est-ce qu'on doit s'attendre à des phénomènes encore plus extrêmes dans les années à venir ?
Aujourd'hui, bon, les émissions de CO2, comme je disais, baissent, mais pas suffisamment. Donc la baignoire continue à s'emplir, donc le réchauffement va se poursuivre. Donc avec 1,2 degré aujourd'hui, on a déjà des tempêtes, des incendies, des sécheresses. Ça va se poursuivre, oui. Donc, alors moi, je préfère d'abord qu'on lutte contre les réchauffements et ensuite qu'on s'adapte. Mais il faut aussi prévoir de l'adaptation et, par exemple, faire en sorte que l'agriculture, notamment, soit moins sensible à la baisse des précipitations. C'est sûr que l'image aujourd'hui que les gens en ont, c'est réchauffement climatique, donc c'est sécheresse et canicule. Mais c'est pas seulement ça, ça perturbe aussi la circulation des masses d'eau et des masses d'air. Et donc c'est aussi tempête et pluie. Hein. Donc c'est vraiment tous ces phénomènes. On parle de dérèglement climatique plutôt que de réchauffement climatique. Moi, j'aime bien parler de réchauffement parce que ça frappe bien les esprits, mais c'est globalement un dérèglement. Et donc malheureusement, ça va être de plus en plus important. Et d'ailleurs, les assurances et les assureurs commencent à avoir des difficultés à absorber les coûts en croissance liés aux tempêtes et autres accidents naturels, qui ne sont plus vraiment naturels d'ailleurs. Le réchauffement climatique va devenir de plus en plus coûteux pour tout le monde.
Julien Klotz, vous animez régulièrement des ateliers de sensibilisation sur le sujet. Quel est le message que vous voudriez faire passer aujourd'hui ?
C'est plusieurs petits messages. C'est le réchauffement climatique, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose contre lequel chacune et chacun peut agir. Même si on est un parmi des millions ou des milliards, c'est comme une élection. Chacun met son bulletin et c'est la somme des bulletins qui fait le résultat de l'élection. Donc chacun peut contribuer. Et puis, il faut discuter pour savoir quoi faire pour lutter contre le réchauffement, soit directement nous par nos actions, soit par la pression qu'on peut faire sur nos élus ou nos entreprises. Pour finir, ce qui compte, est-ce que c'est avoir une grosse voiture et faire beaucoup de voyages ou être heureux ? Voilà, je pense que ça questionne aussi notre mode de vie. J'ai mon fils aujourd'hui qui est en terminale et qui va passer le bac, notamment le bac de philo. Et voilà, on a de bons moments d'échange sur ce que c'est que le bonheur, ce que c'est que le progrès. Je pense que c'est une bonne occasion de se poser la question, sachant qu'aujourd'hui, la croissance, elle bénéficie souvent aux personnes qui sont les plus riches. Et donc, il y a aussi une question de solidarité et de partage. Il ne faut pas que les personnes qui ont le moins de revenus se disent qu'elles en auront encore moins. Oui, elles en auront encore moins si le réchauffement climatique se confirme. Mais si on travaille tous ensemble, non, ça sera plus équitable. Je pense qu'il faut qu'on change notre manière de voir.
Ouais, c'est important de changer notre manière de voir et on aura l'occasion d'en savoir beaucoup plus sur le réchauffement climatique et comment réinventer nos vies à faible carbone grâce à votre conférence le mercredi 24 janvier. Rendez-vous à 20h à la salle de la mairie de Rieux-Volvestre. C'est une conférence qui est gratuite comme toutes celles proposées par la Pub en Vol, donc faut pas hésiter à s'y rendre. Merci beaucoup Julien Klotz.
Avec plaisir.
Très bonne journée à vous.
Radio Galaxie, c'est la radio que j'écoute.